Jules Barbet d'Orvilly, Les Diaboliques. Le rideau cramoisi, cinquième partie. Mais elle va bien, votre Alberte, dis-je au capitaine. Vous croyez peut-être, reprit-il, comme s'il n'avait pas entendu ma moqueuse observation, qu'elle y tomba dans mes bras, d'effroi, de passion, de tête perdue, comme une fille poursuivie ou qu'on peut poursuivre, qui ne sait plus ce qu'elle fait quand elle fait la dernière des folies, quand elle s'abandonne à ce démon que les femmes ont toutes, dit-on, quelque part, et qui serait le maître toujours, s'il n'y en avait pas deux autres aussi en elle, la lâcheté et la honte, pour contrarier celui-là. Eh bien non, ce n'était pas cela. Si vous le croyez, vous vous tromperiez. Elle n'avait rien de ces peurs vulgaires et osées. Ce fut bien plus elle qui me prit dans ses bras que je ne la pris dans les miens. Son premier mouvement avait été de se jeter le front contre ma poitrine, mais elle le releva et me regarda les yeux tout grands, des yeux immenses, comme pour voir si c'était bien moi qu'elle tenait ainsi dans ses bras. Elle était horriblement pâle, comme je ne l'avais jamais vue pâle, mais ses traits de princesse n'avaient pas bougé. Ils avaient toujours l'immobilité et la fermeté d'une médaille. Seulement, sur sa bouche, aux lèvres légèrement bombées, errait je ne sais quel égarement, qui n'était pas celui de la passion heureuse ou qui va l'être tout à l'heure. Et cet égarement avait quelque chose de si sombre dans un pareil moment que, pour ne pas le voir, je plantai sur ses belles lèvres rouges et érectiles le robuste et foudroyant baiser du désir triomphant et roi. La bouche s'entr'ouvrit, mais les yeux noirs, à la noirceur profonde et dont les longues paupières touchaient presque alors mes paupières, ne se fermèrent point, ne palpitèrent même pas. Mais tout au fond, comme sur sa bouche, je vis passer de la démence. Agrafée dans ce baiser de feu et comme enlevée par les lèvres qui pénétraient les siennes, aspirée par l'haleine qui la respirait, je la portais, toujours collée à moi, sur ce canapé de maroquin bleu, mon gril de Saint-Laurent, depuis un mois que je m'y roulais en pensant à elle, et dont le maroquin se mit voluptueusement à craquer sous son dos nu, car elle était à moitié nue. Elle sortait de son lit, et pour venir, elle avait, le croirez-vous, été obligée de traverser la chambre où son père et sa mère dormaient. Elle l'avait traversée à tâtons, les mains en avant, pour ne pas se choquer à quelque meuble qui aurait retenti de son choc et qui eût pu les réveiller. Ah, fis-je, on n'est pas plus brave à la tranchée. Elle était digne d'être la maîtresse d'un soldat. Et elle le fut, dès cette première nuit-là, reprit le vicomte. Elle le fut aussi violente que moi, et je vous jure que je l'étais, mais c'est égal, voici la revanche. Elle ni moi ne pûmes oublier, dans les plus vifs de nos transports, l'épouvantable situation qu'elle nous faisait à tous les deux. Au sein de ce bonheur qu'elle venait chercher et m'offrir, elle était alors comme stupéfiée de l'acte qu'elle accomplissait d'une volonté pourtant si ferme, avec un acharnement si obstiné. Je ne m'en étonnais pas. Je l'étais bien, moi, stupéfiée. J'avais bien, sans le lui dire et sans le lui montrer, la plus effroyable anxiété dans le cœur, pendant qu'elle me pressait à m'étouffer sur le sien. J'écoutais, à travers ses soupirs, à travers ses baisers, à travers le terrifiant silence qui pesait sur cette maison endormie et confiante, une chose horrible. C'est si sa mère ne s'éveillait pas, si son père ne se levait pas. Et jusque par-dessus son épaule, je regardais derrière elle si cette porte, dont elle n'avait pas ôté la clé, par peur du bruit qu'elle pourrait faire, n'allait pas s'ouvrir de nouveau et me montrer, pâles et indignées, ces deux têtes de méduse, ces deux vieillards que nous trompions avec une lâcheté si hardie, surgir tout à coup dans la nuit, image de l'hospitalité violée et de la justice. Jusqu'à ces voluptueux craquements du maroquin bleu, qui m'avait sonné la diane de l'amour, me faisait tressaillir d'épouvante. Mon cœur battait contre le sien, qui semblait me répercuter ses battements. C'était enivrant et dégrisant tout à la fois, mais c'était terrible. Je me fis à tout cela plus tard. À force de renouveler impunément cette imprudence sans nom, je devins tranquille dans cette imprudence. À force de vivre dans ce danger d'être surpris, je me blasai. Je n'y pensais plus. Je ne pensais plus qu'à être heureux. Dès cette première nuit formidable, qui aurait dû l'épouvanter des autres, elle avait décidé qu'elle viendrait chez moi de deux nuits en deux nuits, puisque je ne pouvais aller chez elle, sa chambre de jeune fille n'ayant d'autre issue que dans l'appartement de ses parents. Et elle y vint régulièrement toutes les deux nuits. Mais jamais elle ne perdit la sensation, la stupeur de la première fois. Le temps ne produisit pas sur elle l'effet qu'il produisit sur moi. Elle ne se bronza pas au danger, affronté chaque nuit. Toujours elle restait, et jusque sur mon cœur, silencieuse, me parlant à peine avec la voix, car d'ailleurs vous vous doutez bien qu'elle était éloquente. Et lorsque plus tard le calme me prit, moi, à force de dangers affrontés et de réussites, et que je lui parlais, comme on parle à sa maîtresse, de ce qu'il y avait déjà de passé entre nous, de cette froideur inexplicable et démentie, puisque je la tenais dans mes bras, et qui avait succédé à ses premières audaces, quand je lui adressais enfin tous ces pourquoi insatiables de l'amour, qui n'est peut-être au fond qu'une curiosité, elle ne me répondit jamais que par de longues étreintes. Sa bouche triste demeurait muette de tout, excepté de baisers. Il y a des femmes qui vous disent « Je me perds pour vous ». Il y en a d'autres qui vous disent « Tu vas bien me mépriser ». Et ce sont là des manières différentes d'exprimer la fatalité de l'amour. Mais elle, non, elle ne disait mot. Chose étrange, plus étrange personne. Elle me produisait l'effet d'un épais et dur couvercle de marbre qui brûlait, chauffé par en dessous. Je croyais qu'il arriverait un moment où le marbre se fendrait enfin sous la chaleur brûlante, mais le marbre ne perdit jamais sa rigide densité. Les nuits qu'elle venait, elle n'avait ni plus d'abandon, ni plus de parole, et, je me permettrai ce mot ecclésiastique, elle fut toujours aussi difficile à confesser que la première nuit qu'elle était venue. Je n'en tirai pas davantage. Tout au plus, un monosyllabe arraché d'obsession à ses belles lèvres, dont je raffolais d'autant plus que je les avais vues plus froides et plus indifférentes pendant la journée. Et encore, un monosyllabe qui ne faisait pas grande lumière sur la nature de cette fille, qui me paraissait plus sphinx à elle seule que tous les sphinx dont l'image se multipliait autour de moi dans cet appartement empire. Mais, capitaine, interrompis-je encore, il y eut pourtant une fin à tout cela. Vous êtes un homme fort et tous les sphinx sont des animaux fabuleux. Il n'y en a point dans la vie. Et vous finîtes bien par trouver, que diable, ce qu'elle avait dans son giron, cette commère-là. Ah, une fin. Oui, il y eut une fin, fit le vicomte de Brassard en baissant brusquement la vitre du coupé. Comme si la respiration avait manqué à sa monumentale poitrine et qu'il eût besoin d'air pour achever ce qu'il avait à raconter. Mais le giron, comme vous dites, de cette singulière fille, n'en fut pas plus ouvert pour cela. Notre amour, notre relation, notre intrigue, appelez ça comme vous voudrez, nous donna, ou plutôt me donna à moi, des sensations que je ne crois pas avoir éprouvées jamais depuis avec des femmes plus aimées que cette Alberte, qui ne m'aimait peut-être pas, que je n'aimais peut-être pas. Je n'ai jamais bien compris ce que j'avais pour elle et ce qu'elle avait pour moi. Et cela dura plus de 6 mois. Pendant ces 6 mois, tout ce que je compris, ce fut un genre de bonheur dont on n'a pas idée dans la jeunesse. Je compris le bonheur de ceux qui se cachent. Je compris la jouissance du mystère dans la complicité, qui, même sans l'espérance de réussir, ferait encore des conspirateurs incorrigibles. Alberte, à la table de ses parents comme partout, était toujours la madame infante qui m'avait tant frappé le premier jour que je l'avais vue. Son front néronien, sous ses cheveux bleus à force d'être noirs, qui bouclaient durement et touchaient ses sourcils, ne laissait rien passer de la nuit coupable, qui n'y étendait aucune rougeur. Et moi qui essayais d'être aussi impénétrable qu'elle, mais qui, j'en suis sûre, aurait dû me trahir 10 fois si j'avais eu affaire à des observateurs, je me rassasiais orgueilleusement et presque sensuellement dans le plus profond de mon être de l'idée que toute cette superbe indifférence était bien à moi et qu'elle avait pour moi toutes les bassesses de la passion, si la passion pouvait jamais être basse. Nul que nous sur la terre ne savait cela, et c'était délicieux cette pensée. Personne, pas même mon ami Louis Demain, avec lequel j'étais discret depuis que j'étais heureux. Oh, il avait tout deviné sans doute, puisqu'il était aussi discret que moi. Il ne m'interrogeait pas. J'avais repris avec lui, sans effort, mes habitudes d'intimité, les promenades sur le cours, en grande ou en petite tenue, l'impériale, l'escrime et le punch. Par Dieu, quand on sait que le bonheur viendra sous la forme d'une belle jeune fille qui a comme une rage de dents dans le cœur, vous visitez régulièrement d'une nuit l'autre, à la même heure, cela simplifie joliment les jours. Mais ils dormaient donc comme les 7 dormants, les parents de cette Alberte ? Fis-je railleusement, en coupant net les réflexions de l'ancien dandy par une plaisanterie. Et pour ne pas paraître trop pris par son histoire, qui me prenait ? Car avec les dandys, on n'a guère que la plaisanterie pour se faire un peu respecter. Vous croyez donc que je cherche des effets de conteur hors de la réalité, dit le vicomte. Mais je ne suis pas romancier, moi. Quelquefois, Albert ne venait pas. La porte, dont les gonds huilés étaient moelleux comme de la ouate maintenant, ne s'ouvrait pas de toute une nuit. Et c'est alors sa mère l'avait entendu et s'était écriée, ou c'est que son père l'avait aperçu, filant ou tâtonnant à travers la chambre. Seulement, Albert, avec sa tête d'acier, trouvait à chaque fois un prétexte. Elle était souffrante, elle cherchait le sucrier sans flambeau, de peur de réveiller personne. Ces têtes d'acier-là ne sont pas si rares que vous avez l'air de le croire, capitaine, interrompis-je encore. J'étais contrariant. Votre Alberte, après tout, n'était pas plus forte que la jeune fille qui recevait toutes les nuits, dans la chambre de sa grand-mère endormie derrière ses rideaux, un amant entré par la fenêtre et qui, n'ayant pas de canapé de maroquin bleu, s'établissait à la bonne franquette sur le tapis. Vous savez comme moi l'histoire, Un soir, apparemment poussé par la jeune fille trop heureuse, un soupir plus fort que les autres réveilla la grand-mère qui cria de dessous ses rideaux un « Mais qu'as-tu donc, petite ?» à la faire évanouir contre le cœur de son amant. Mais elle n'en répondit pas moins de sa place. « C'est mon buse qui me gêne, grand-maman, pour chercher mon aiguille tombée sur le tapis et que je ne puis pas retrouver. » Oui, je connais cette histoire, reprit le vicomte de Brassard, que j'avais cru humilié par une comparaison dans la personne de son Alberte. C'était, si je m'en souviens bien, une De Guise que la jeune fille dont vous me parlez. Elle s'en tira comme une fille de son nom. Mais vous ne dites pas qu'à partir de cette nuit-là, elle ne rouvrit plus la fenêtre à son amant, qui était, je crois, Monsieur de Noirmoutier. Tandis qu'Alberte, elle, revenait le lendemain de ses accrocs terribles et s'exposait de plus belle aux dangers bravés, comme si de rien n'était. Alors je n'étais moi qu'un sous-lieutenant assez médiocre en mathématiques et qui m'en occupait fort peu. Mais il était évident, pour qui sait faire le moindre calcul de probabilité, qu'un jour, une nuit, il y aurait un dénouement. « Ah oui, fis-je, me rappelant ces paroles d'avant son histoire, le dénouement qui devait vous faire connaître la sensation de la peur, capitaine. » « Précisément, répondit-il d'un ton plus grave et qui tranchait sur le ton léger que j'affectais. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Depuis ma main prise sous la table, jusqu'au moment où elle surgit la nuit comme une apparition dans le cadre de ma porte ouverte, Alberte ne m'avait pas marchandé l'émotion. Elle m'avait fait passer dans l'âme plus d'un genre de frisson, plus d'un genre de terreur. Mais ce n'avait été encore que l'impression des balles qui sifflent autour de vous et des boulets dont on sent le vent. On frissonne, mais on va toujours. Eh bien, ce ne fut plus cela. Ce fut de la peur complète, de la vraie peur, et non plus pour Alberte, mais pour moi, et pour moi tout seul. Ce que j'éprouvais, ce fut positivement cette sensation qui doit rendre le cœur aussi pâle que la face. Ce fut cette panique qui fait prendre la fuite à des régiments tout entiers. Moi qui vous parle, j'ai vu fuir tout Chamborant, bride abattue et ventre à terre, l'héroïque Chamborant, emportant dans son flot épouvanté son colonel et ses officiers. Mais à cette époque, je n'avais encore rien vu, et j'appris ce que je croyais impossible. Écoutez donc. C'était une nuit. Avec la vie que nous menions, ce ne pouvait être qu'une nuit, une longue nuit d'hiver. Je ne dirai pas une de nos plus tranquilles. Elles étaient toutes tranquilles, nos nuits. Elles l'étaient devenues à force d'être heureuses. Nous dormions sur ce canon chargé. Nous n'avions pas la moindre inquiétude en faisant l'amour sur cette lame de sabre posée en travers d'un abîme, comme le pont de l'enfer des Turcs. Alberte était venue plus tôt qu'à l'ordinaire, pour être plus longtemps. Quand elle venait ainsi, ma première caresse, mon premier mouvement d'amour, était pour ses pieds. Ses pieds qui n'avaient plus alors ses brodequins verts ou hortensias, ses deux coquetteries et mes deux délices, et qui, nue pour ne pas faire de bruit, m'arrivait transie de froid des briques sur lesquelles elle avait marché le long du corridor qui menait de la chambre de ses parents à ma chambre, placée à l'autre bout de la maison. Je les réchauffais, ses pieds glacés pour moi, et qui peut-être ramassaient pour moi, en sortant d'un lit chaud, quelque horrible maladie de poitrine. Je savais le moyen de les tiédir et d'y mettre du rose ou du vermillon à ses pieds pâles et froids. Mais cette nuit-là, mon moyen manqua. Ma bouche fut impuissante à attirer sur ce coup de pied cambré et charmant la plaque de sang que j'aimais souvent à y mettre, comme une rosette ponceau. Alberte, cette nuit-là, était plus silencieusement amoureuse que jamais. Ses étreintes avaient cette langueur et cette force qui étaient pour moi un langage, et un langage si expressif que si je lui parlais toujours, moi, si je lui disais toutes mes démences et toutes mes ivresses, je ne lui demandais plus de me répondre et de me parler. À ses étreintes, je l'entendais. Tout à coup, je ne l'entendis plus. Ses bras cessèrent de me presser sur son cœur et je crus à une de ses pâmoisons, comme elle en avait souvent, quoique ordinairement elle gardât en ses pâmoisons la force crispée de l'étreinte. Nous ne sommes pas des bégueules entre nous. Nous sommes deux hommes et nous pouvons nous parler comme deux hommes. J'avais l'expérience des spasmes voluptueux d'Alberte et quand il l'apprenait, il n'interrompait pas mes caresses. Je restais comme j'étais, sur son cœur, attendant qu'elle revînt à la vie consciente, dans l'orgueilleuse certitude qu'elle reprendrait ses sens sous les miens et que la foudre qui l'avait frappée la ressusciterait en la refrappant. Mais mon expérience fut trompée. Je la regardais comme elle était, liée à moi sur le canapé bleu, épiant le moment où ses yeux, disparus sous ses larges paupières, me remontreraient leurs beaux orbes de velours noir et feu. Ou ses dents, qui se serraient et grinçaient à briser leur émail au moindre baiser, appliqué brusquement sur son cou et traîné longuement sur ses épaules, laisserait, en s'entr'ouvrant, passer son souffle. Mais ni les yeux ne revinrent, ni les dents ne se desserrèrent. Le froid des pieds d'Alberte était monté jusque dans ses lèvres et sous les miennes. Quand je sentis cet horrible froid, je me dressai à mi-corps pour mieux la regarder. Je m'arrachai en sursaut de ses bras, dont l'un tomba sur elle et l'autre pendit à terre, du canapé sur lequel elle était couchée. Effarée, mais lucide encore, je lui mis la main sur le cœur. Il n'y avait rien. Rien au pouls, rien aux tempes, rien aux artères carotides, rien nulle part, que la mort qui était partout et déjà avec son épouvantable rigidité. J'étais sûre de la mort, et en même temps je ne voulais pas y croire. La tête humaine a de ces volontés stupides contre la clarté même de l'évidence et du destin. Alberte était morte. De quoi ? Je ne savais pas, je n'étais pas médecin. Mais elle était morte, et quoique je visse avec la clarté du jour de midi que ce que je pourrais faire était inutile, je fis pourtant tout ce qui me semblait si désespérément inutile. Dans mon néant absolu de tout, de connaissances, d'instruments, de ressources, je lui vidai sur le front tous les flacons de ma toilette. Je lui frappai résolument dans les mains, au risque d'éveiller le bruit dans cette maison où le moindre bruit nous faisait trembler. J'avais ouï dire à un de mes oncles, chef d'escadron au 4e dragon, qu'il avait un jour sauvé un de ses amis d'une apoplexie en le saignant vite avec une de ces flammes dont on se sert pour saigner les chevaux. J'avais des armes plein ma chambre. Je pris un poignard et j'en labourai le bras d'Alberte à la saignée. Je massacrai ce bras splendide, d'où le sang ne coula même pas. Quelques gouttes s'y coagulèrent, il était figé. Ni baiser, ni succion, ni morsure ne purent galvaniser ce cadavre raidi, devenu cadavre sous mes lèvres. Ne sachant plus ce que je faisais, je finis par m'étendre dessus. Le moyen qu'emploient, disent les vieilles histoires, les thaumaturges ressusciteurs n'espérant pas y réchauffer la vie, mais agissant comme si je l'espérais. Et ce fut sur ce corps glacé qu'une idée, qui ne s'était pas dégagée du chaos dans lequel la bouleversante mort subite d'Alberte m'avait jeté, m'apparut nettement et que j'eus peur. Oh, mais une peur immense. Alberte était morte chez moi et sa mort disait tout. Qu'allais-je devenir? Que fallait-il faire? À cette pensée, je sentis la main physique de cette peur hideuse, dans mes cheveux qui devinrent des aiguilles. Ma colonne vertébrale se fondit en une fange glacée et je voulus lutter, mais en vain, contre cette déshonorante sensation. Je me dis qu'il fallait avoir du sang-froid, que j'étais un homme après tout, que j'étais militaire. Je me mis la tête dans les mains et, quand le cerveau me tournait dans le crâne, je m'efforçai de raisonner la situation horrible dans laquelle j'étais pris et d'arrêter, pour les fixer et les examiner, toutes les idées qui me fouettaient le cerveau comme une toupie cruelle et qui toutes allaient, à chaque tour, se heurter à ce cadavre qui était chez moi, à ce corps inanimé d'Alberte qui ne pouvait plus regagner sa chambre et que sa mère devait retrouver le lendemain dans la chambre de l'officier, morte et déshonorée. L'idée de cette mère à laquelle j'avais peut-être tué sa fille en la déshonorant me pesait plus sur le cœur que le cadavre même d'Alberte. On ne pouvait pas cacher la mort. Mais le déshonneur prouvé par le cadavre chez moi, n'y avait-il pas moyen de le cacher? C'était la question que je me faisais, le point fixe que je regardais dans ma tête. Difficulté grandissante à mesure que je la regardais et qui prenait les proportions d'une impossibilité absolue. Hallucination effroyable. Par moments, le cadavre d'Albert me semblait emplir toute ma chambre et ne pouvoir plus en sortir. Ah, si la sienne n'avait pas été placée derrière l'appartement de ses parents, je l'aurais, à tout risque, reporté dans son lit. Mais pouvais-je faire, moi, avec son corps mort dans mes bras, ce qu'elle faisait, elle, déjà si imprudemment vivante, et m'aventurer ainsi à traverser une chambre que je ne connaissais pas, où je n'étais jamais entrée, et où reposaient endormis du sommeil léger des vieillards, le père et la mère de la malheureuse? Et cependant l'état de ma tête était tel, la peur du lendemain et de ce cadavre chez moi me galopait avec tant de furie, que ce fut cette idée, cette témérité, cette folie de reporter Alberte chez elle qui s'empara de moi. C'était l'unique moyen de sauver l'honneur de la pauvre fille et de m'épargner la honte des reproches du père et de la mère, de me tirer enfin de cette ignominie. Le croirez-vous? J'ai peine à le croire moi-même quand j'y pense. J'eus la force de prendre le cadavre d'Alberte et, le soulevant par les bras, de le charger sur mes épaules. Horrible chape, plus lourde à lait que celle des damnés de l'enfer de Dante. Il faut l'avoir portée, comme moi, cette chape, d'une chair qui me faisait bouillonner le sang de désir, il n'y avait qu'une heure, et qui maintenant me transissait. Il faut l'avoir portée pour bien savoir ce que c'était. J'ouvris ma porte ainsi chargée et, pieds nus comme elle, pour faire moins de bruit, je m'enfonçai dans le corridor qui conduisait à la chambre de ses parents et dont la porte était au fond, m'arrêtant à chaque pas sur mes jambes défaillantes pour écouter le silence de la maison dans la nuit que je n'entendais plus à cause des battements de mon cœur. Ce fut long. Rien ne bougeait. Un pas suivait un pas. Seulement, quand j'arrivai tout contre la terrible porte de la chambre de ses parents, qu'il me fallait franchir et qu'elle n'avait pas, en venant, entièrement fermée pour la retrouver entr'ouverte au retour, et que j'entendis les deux respirations longues et tranquilles de ces deux pauvres vieux qui dormaient dans toute la confiance de la vie, je n'osai plus. Je n'osai plus passer ce seuil noir et béant dans les ténèbres. Je reculai. Je m'enfuis presque avec mon fardeau. Je rentrai chez moi de plus en plus épouvanté. Je replaçai le corps d'Alberte sur le canapé et je recommençai, accroupi sur les genoux auprès d'elle, les suppliciantes questions. Que faire? Que devenir? Dans l'écroulement qui se faisait en moi, l'idée insensée et atroce de jeter le corps de cette belle fille, ma maîtresse de 6 mois, par la fenêtre, me sillonna l'esprit. Méprisez-moi, j'ouvris la fenêtre. J'écartai le rideau que vous voyez là. Et je regardai dans le trou d'ombre au fond duquel était la rue, car il faisait très sombre cette nuit-là. On ne voyait point le pavé. On croira à un suicide, pensai-je. Et je repris Alberte et je la soulevai. Mais voilà qu'un éclair de bon sens croisa la folie. D'où se sera-t-elle tuée? D'où sera-t-elle tombée si on la trouve sous ma fenêtre? Me demandai-je. L'impossibilité de ce que je voulais faire me souffleta. J'allai refermer la fenêtre, qui grinça dans son espagnolette. Je retirai le rideau de la fenêtre, plus mort que vif de tous les bruits que je faisais. D'ailleurs, par la fenêtre, sur l'escalier, dans le corridor, partout où je pouvais laisser ou jeter le cadavre, éternellement accusateur, la profanation était inutile. L'examen du cadavre révélerait tout, et l'œil d'une mère, si cruellement averti, verrait tout ce que le médecin ou le juge voudrait lui cacher. Ce que j'éprouvais était insupportable, et l'idée d'en finir d'un coup de pistolet, en l'état lâche de mon âme démoralisée, un mot de l'empereur que plus tard j'ai compris, me traversa en regardant luire mes armes contre le mur de ma chambre. Mais que voulez-vous? Je serai franc. J'avais 17 ans et j'aimais mon épée. C'est par goût et sentiment de race que j'étais soldat. Je n'avais jamais vu le feu et je voulais le voir. J'avais l'ambition militaire. Au régiment, nous plaisantions de Werther, un héros du temps, qui nous faisait pitié à nous autres officiers. La pensée qui m'empêcha de me soustraire en me tuant à l'ignoble peur qui me tenait toujours, me conduisit à une autre qui me parut le salut même dans l'impasse où je me tordais. Et si j'allais trouver le colonel, me dis-je? Le colonel, c'est la paternité militaire. Et je m'habillai comme on s'habille quand bat la générale, dans une surprise. Je pris mes pistolets par précaution de soldat, qui savait ce qui pouvait arriver. J'embrassai une dernière fois, avec le sentiment qu'on a à 17 ans, et on est toujours sentimental à 17 ans, la bouche muette et qu'il avait été toujours. De cette belle Alberte trépassée et qui me comblait depuis 6 mois de ses plus enivrantes faveurs. Je descendis sur la pointe des pieds l'escalier de cette maison où je laissais la mort. Haletant comme un homme qui se sauve, je mis une heure, il me sembla que j'y mettais une heure, à déverrouiller la porte de la rue et à tourner la grosse clé dans son énorme serrure. Et après l'avoir refermée avec les précautions d'un voleur, je m'encourus, comme un fuyard, chez mon colonel. J'y sonnai comme au feu. J'y retentis comme une trompette, comme si l'ennemi avait été en train d'enlever le drapeau du régiment. Je renversai tout, jusqu'à l'ordonnance qui voulut s'opposer à ce que j'entrasse à pareille heure dans la chambre de son maître. Et une fois le colonel réveillé par la tempête du bruit que je faisais, je lui dis tout. Je me confessai d'un trait et à fond, rapidement et crânement, car les moments pressaient, le suppliant de me sauver. C'était un homme que le colonel. Il vit d'un coup d'œil l'horrible gouffre dans lequel je me débattais. Il eut pitié du plus jeune de ses enfants, comme il m'appela. Et je crois que j'étais alors dans un état à faire pitié. Il me dit, avec le juron le plus français, qu'il fallait commencer par décamper immédiatement de la ville et qu'il se chargerait de tout. Qu'il verrait les parents dès que je serais parti, mais qu'il fallait partir, prendre la diligence qui allait relayer dans 10 minutes à l'hôtel de la poste, gagner une ville qu'il me désigna et où il m'écrirait. Il me donna de l'argent, car j'avais oublié d'en prendre, m'appliqua cordialement sur les joues ses vieilles moustaches grises, et 10 minutes après cette entrevue, je grimpai, il n'y avait plus que cette place, sur l'impériale de la diligence qui faisait le même service que celle où nous sommes actuellement. Et je passais au galop sous la fenêtre, je vous demande quel regard j'y jetai, de la funèbre chambre où j'avais laissé Alberte morte et qui était éclairée comme elle l'est ce soir. Le vicomte de Brassard s'arrêta, sa forte voix un peu brisée. Je ne songeais plus à plaisanter. Le silence ne fut pas long entre nous. « Et après ?» lui dis-je. « Eh bien, voilà, » répondit-il, « il n'y a pas d'après. » C'est cela qui a bien longtemps tourmenté ma curiosité exaspérée. Je suivis aveuglément les instructions du colonel. J'attendis avec impatience une lettre qui m'apprendrait ce qu'il avait fait et ce qui était arrivé après mon départ. J'attendis environ 1 mois. Mais au bout de ce mois, ce ne fut pas une lettre que je reçus du colonel, qui n'écrivait guère qu'avec son sabre sur la figure de l'ennemi, ce fut l'ordre d'un changement de corps. Il m'était ordonné de rejoindre le 35e, qui allait entrer en campagne, et il fallait que sous 24 heures, je fusse arrivé au nouveau corps auquel j'appartenais. Les immenses distractions d'une campagne, et de la première, les batailles auxquelles j'assistais, les fatigues, et aussi les aventures de femmes que je mis par-dessus celles-ci, me firent négliger d'écrire au colonel, et me détournèrent du souvenir cruel de l'histoire d'Alberte, sans pouvoir pourtant l'effacer. Je l'ai gardée comme une balle qu'on ne peut extraire. Je me disais qu'un jour ou l'autre, je rencontrerais le colonel qui me mettrait enfin au courant de ce que je désirais savoir, mais le colonel se fit tuer à la tête de son régiment à Leipzig. Louis de Main s'était aussi fait tuer 1 mois auparavant. C'était assez méprisable cela, ajouta le capitaine, mais tout s'assoupit dans l'âme la plus robuste, et peut-être parce qu'elle est la plus robuste. La curiosité dévorante de savoir ce qui s'était passé après mon départ finit par me laisser tranquille. J'aurais pu, depuis bien des années, et changé comme j'étais, revenir sans être reconnu dans cette petite ville-ci, et m'informer du moins de ce qu'on savait, de ce qui y avait filtré de ma tragique aventure. Mais quelque chose qui n'est pas, certes, le respect de l'opinion, dont je me suis moqué toute ma vie, quelque chose qui ressemblait à cette peur que je ne voulais pas sentir une seconde fois, m'en a toujours empêché. Il se tut encore, ce dandy, qui m'avait raconté sans le moindre dandysme une histoire d'une si triste réalité. Je rêvais sous l'impression de cette histoire et je comprenais que ce brillant vicomte de Brassard, la fleur non des pois mais des plus fiers pavots rouges du dandysme, le buveur grandiose de claret à la manière anglaise, fut comme un autre, un homme plus profond qu'il ne paraissait. Le mot me revenait qu'il m'avait dit en commençant, sur la tache noire qui, pendant toute sa vie, avait meurtri ses plaisirs de mauvais sujet, quand tout à coup, pour m'étonner davantage encore, il me saisit le bras brusquement. « Tenez, me dit-il, voyez au rideau !» L'ombre svelte d'une taille de femme venait d'y passer en s'y dessinant. « L'ombre d'Alberte !» fit le capitaine. « Le hasard est par trop moqueur ce soir, » ajouta-t-il avec amertume. Le rideau avait déjà repris son carré vide, rouge et lumineux. Mais le charron, qui, pendant que le vicomte parlait, avait travaillé à son écrou, venait de terminer sa besogne. Les chevaux de relais étaient prêts et piaffés, se sabotant de feu. Le conducteur de la voiture, bonnet d'astrakhan aux oreilles, registre aux dents, prit les longes et s'enleva. Et une fois hissé sur sa banquette d'impérial, cria de sa voix claire le mot du commandement dans la nuit. « Roulez !» Et nous roulâmes. Et nous eûmes bientôt dépassé la mystérieuse fenêtre que je vois toujours dans mes rêves avec son rideau cramoisi.